Radio Kapi. Le journal Babel Congo Masina.
Les rideaux se lèvent aujourd'hui à Kinshasa sur la table ronde concernant les défis de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. C'est pour deux jours. Il s'agit de mieux organiser l'espace national en tenant compte des réalités du pays. Dans ce journal aussi, les difficiles conditions de travailleurs au sein de la plupart des entreprises minières du clan Katanga, entre licenciements abusifs, absence de protection syndicale ou encore la non-application du SMIC. Les plaintes sont nombreuses pour la Mundanga s'y est penchée. Célébration hier 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse autour du thème national, façonner un avenir de paix. Nous recevons dans ce journal Dieudonné Mwaka Dimbi, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo dans la province du Congo central. Madame, Monsieur, bonjour. La ville de Kinshasa accueille aujourd'hui et demain à 5 mai la table ronde sur les défis de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. C'est une initiative du ministère de l'aménagement du territoire. Cette rencontre vise à faire de l'aménagement du territoire un socle de la transformation nationale harmonieuse, cela en tenant compte des réalités démographiques, économiques, sociales et environnementales du pays. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Plusieurs thématiques clés sont inscrites à l'ordre du jour de ces forums, notamment l'état des lieux de l'aménagement du territoire au niveau des provinces, sa contribution au projet structurant, ainsi que la définition d'une vision commune des aspects fondamentaux de la politique nationale d'aménagement du territoire. Les participants sont également appelés à débattre des outils institutionnels et techniques nécessaires à la mise en œuvre effective de cette politique à l'échelle nationale et provinciale. Pour rappel, la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire est entrée en application depuis le 12 août 2025, soit 30 jours après sa publication par le journal officiel conformément à l'article 141 de la Constitution. Depuis, tout projet d'infrastructure ou toute utilisation de l'espace physique devra impérativement obtenir un avis de conformité en application de ces nouvelles dispositions légales.
Au Nord Kivu, les fonctionnaires délégués de Remeka en territoire de Masisi alertent sur les dégâts enregistrés après les pluies de vendredi dernier au village Miamo et Kamobé. C'est dans le groupement Oufamandou Ier, chef-lieu des Baoundé. Il trace un bilan de 4 morts, 8 ponts effondrés et plusieurs champs des paysans submergés par les eaux de pluie. Il lance un SOS aux humanitaires afin de venir en aide aux sinistrés, mais aussi afin de reconstruire urgentement les ponts effondrés. D'autres précisions avec Bernardine Diambo.
D'après notre source, ces fortes pluies ont débuté depuis 11h jusqu'à 17h, heure locale, laissant derrière elles plusieurs dégâts humains et matériels. Toujours selon notre source, sur les 4 hommes tués, 3 corps sans vie ont été déjà retrouvés. L'autre est porté disparu. Pour les dégâts matériels, les fonctionnaires délégués de Remeka parlent de 8 ponts effondrés, dont 4 dans le village Kamobé et 4 aussi dans le village Miano. On observe aussi plus de 150 érosions dans ces 2 villages. Une maison en tôle a été complètement détruite, ainsi que plusieurs champs de maïs, haricots, manioc, arachide et bananeraies ont été également submergés par les eaux de pluie. Face à ces tableaux sombres, ces représentants du gouverneur basé à Remeka, Amani Bwira, lance un SOS aux humanitaires afin de venir en aide à toutes les personnes sinistrées touchées par ces drames, mais aussi voir comment reconstruire les ponts effondrés par les eaux de pluie. Goma, Bernardine Diambo, Radio Kapi.
Les conditions des travailleurs au sein de la plupart des entreprises minières disséminées dans les provinces issues du Grand Katanga sont préoccupantes. Les agents formulent souvent des revendications, notamment sur les privilèges de travailleurs expatriés au détriment des locaux, l'amélioration de leurs conditions de travail, le licenciement abusif, l'absence des protections syndicales ou encore la non-application du SMIC pour la Mundanga s'y est penchée.
La plupart des entreprises minières à capitaux étrangers sont accusées de ne pas appliquer les salaires minimums interprofessionnels garantie SMIG fixée par le gouvernement de la République et qui est entrée en vigueur depuis janvier 2026. La grogne des travailleurs monte dans ces entreprises. On peut citer notamment l'entreprise Metalcol dans la province du Lualaba où les agents ont observé un arrêt de travail récemment. Sur la liste de leurs revendications, l'application du SMIG. On écoute leurs délégués. L'employeur ne paye pas les agents comme il se doit. Et puis nous avons demandé par rapport à l'application du SMIG en rappelant que l'État congolais a déjà fixé le SMIG et qu'il devrait le respecter. L'employeur nous a dit oui, il va l'appliquer mais au taux de 1 800 francs congolais pour $1 américain. Et pour temps, notre référence, c'est la Banque centrale qui fixe les taux à 2200 francs congolais pour un dollar américain. Même problème au sein de l'entreprise Roachi Mining à Lubumbashi. Les agents exigent l'application du SMIG. Nous n'avons aucune réaction des responsables de ces deux entreprises. Signalons qu'au cours de la manifestation organisée le 1er mai à Lubumbashi à l'occasion de la Journée internationale du travail, le ministre provincial du travail du Haut-Katanga, Célestin Kapoya, a souligné que le respect du SMIG n'est pas une option, mais une obligation légale. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Le test d'embauche lancé par la régie des oies a eu lieu hier dimanche à Kinshasa. Ici, c'était dans l'enceinte de l'UPC, l'Université protestante au Congo. Cela se passait également sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans le Congo central, le Haut-Katanga, le Kwilu, le Maniema et d'autres provinces. Face aux candidats présents au test de recrutement à Kinshasa, le directeur général de la régie des eaux, David Chilumba, a insisté sur le principe de la méritocratie dans les processus d'embauche. Les profils recherchés concernent notamment l'électricité de maintenance, mécanicien de maintenance également, plombier de réseau et usine, pompiste des opérations, soudeur mixte, technicien de laboratoire, chef de section statistique, technicien épureur, caissier, recouvreur et facturier. Le directeur général de la régie des eaux revient sur les procédures de ces concours ainsi que les principaux objectifs. Il est au micro de Benjamin Moudoumbi.
Je voudrais d'abord remercier tous ces jeunes gens qui se sont mobilisés partout à travers le pays pour soumettre leur candidature pour les postes qui étaient plébiscités à la régie des eaux. Nous avons besoin de toute une panoplie des métiers techniques à la régie des eaux pour combler les vides que nous avons connus avec le départ en retraite d'un certain nombre de nos agents, mais aussi parce qu'il faut rajeunir la classe de travailleurs de la régie des eaux. Et donc aujourd'hui, nous donnons cette opportunité à ces jeunes qui se sont distingués de réellement montrer de quoi ils sont capables, de nous prouver qu'ils peuvent bien mériter de joindre la grande famille de la régie des eaux. Des milliers de jeunes Congolais qui avaient postulé et qui avaient été sélectionnés pour les différents postes sont donc en train de passer les tests de recrutement et parmi eux, on sélectionnera les meilleurs et alors les meilleurs. Comme vous avez entendu dans la salle, tout ce qui compte, c'est la méritocratie. Ce ne sont pas des recommandations qui viennent de gauche ou de droite. Si vous méritez, vous êtes là. Si vous avez échoué, vous n'êtes pas là. C'est aussi simple que ça. On veut encourager les jeunes à apprendre, à connaître pour mériter l'emploi. L'emploi, ça se mérite sur base des connaissances et des compétences et non pas d'autres considérations.
Les épreuves en session, l'examen d'État édition 2026 débute aujourd'hui lundi sur l'ensemble du pays. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle, Kassai Oriental 1, parle d'une baisse des effectifs sur place par rapport à l'année dernière. Notez que pour cette session, 57 centres sont ouverts dans cette province éducationnelle. Et face aux enjeux de crédibilité et de discipline, l'inspecteur lance un appel ferme aux finalistes. Il leur est strictement interdit d'amener des téléphones portables dans les centres de passation. Pour lui, cette mesure vise à garantir la transparence ainsi que le bon déroulement des épreuves. Suivez les explications de Étienne Mbouyou, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Kassai Oriental 1. Il est au micro d'Estin Dalafina.
Nous avons un effectif d'enrôlés de 22 701 candidats, mais ceux-là qui ont pris l'inscription comme candidats à l'examen d'État, c'est 18 025. Déperdition, on ne sait pas calculer jusque-là le pourcentage, mais c'est une grande déperdition parce que l'année dernière, il y avait plus de candidats que cette année-ci. D'abord aux finalistes, je leur demande de garder le calme et surtout de la discipline au sein du centre d'examen d'État. Nous voulons que l'examen puisse démarrer dans tous les centres au même moment et qu'il se termine au même moment tel que les instructions nous les demandent. Ce qui est interdit aux finalistes, je le dis, j'insiste, le téléphone. C'est une journée sans téléphone. Qu'on habite loin, qu'on habite tout près, on doit se défaire du téléphone. Il ne faudrait pas qu'on donne un travail supplémentaire aux surveillants, aux chefs de centre, et à son adjoint de pouvoir perdre le temps de fouiller. Et là, j'interpelle les parents. Lorsque l'enfant sort de la maison, vous lui rappelez cela. Il ne faudrait pas avoir le téléphone. Tout va baigner dans un bon climat.
Au Nord Kivu, hier, à la veille du lancement de ces épreuves hors session, le syndicat national des professionnels de l'enseignement SINAPE Nord Kivu 3 a appelé les finalistes au calme, à la sérénité, à la discipline. Comme ailleurs au pays, ces épreuves débutant qu'aujourd'hui lundi sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 3. Cette entité qui couvre les territoires de Massissi et de Walikale compte pour la session 2026 60 centres de passation avec environ 9 500 candidats inscrits. Parmi eux, près de 5 900 garçons et environ 3 600 filles. Le secrétaire provincial du SINAPE rassure que toutes les dispositions sont prises pour accueillir les candidats dans de bonnes conditions et ce, malgré le retard de paiement des enseignants pour le mois d'avril. Exaucé Bandou Baouma, secrétaire provincial du SINAPE Nord-Kivu 3, s'exprime à ce sujet au micro de Bernardine Diambo.
C'est un moment crucial pour leur avenir et nous avons veillé à ce que les centres soient prêts à les accueillir dans les meilleures conditions possibles, peu importe le non-paiement des salaires des enseignants du mois d'avril qui tarde jusqu'à aujourd'hui. Les surveillants sont prêts, même s'ils n'ont pas été payés les mois d'avril, mais quand même nous les avons mobilisés et ils seront dans leurs centres respectifs. Nous demandons aux parents de soutenir moralement leurs enfants. En ces derniers week-ends, ils doivent devoir éviter leur mettre une pression excessive. Ils doivent s'assurer simplement qu'ils soient à l'air dans leurs centres respectifs. Ce lundi est un grand jour pour nos finalistes. Mon message est simple, gardez votre calme. L'examen d'État n'est pas un piège, mais une occasion de démontrer les compétences acquises dira tout votre cycle secondaire. Nous croyons à votre potentiel et vous demandons d'aborder ces épreuves avec discipline et honnêteté. Bonne chance à tous les finalistes.
Et au programme de ces épreuves hors session de l'examen d'État figure la dissertation des matières techniques, le français oral et les pratiques professionnelles, une première étape décisive donc avant la session ordinaire de juin. Entre confiance, stress et espoir de réussite, les finalistes du secondaire s'apprêtent à défendre 6 années de parcours scolaire. Jusque hier, dans les écoles, enseignants et élèves affinaient encore les dernières stratégies. La pression monte, mais certains élèves affichent déjà leur confiance. Christian Makasinga a rencontré certains d'entre eux à Kinshasa. Son reportage.
À la veille des épreuves hors session édition 2026, les émotions se bousculent dans le rang des finalistes. Certains affichent une sérénité assumée, convaincus de leur préparation.
Je me sens sereine parce que j'ai confiance en ce que j'ai appris à l'école. Je dirais que je crains vraiment, vraiment, vraiment les maths. J'attends une réussite avec minimum 80%.
Tonton Révange oscille entre pression et détermination, conscient de l'enjeu.
Franchement, je mélange un peu tout, stress, excitation et envie que ça finisse. Vu que c'est la dernière ligne droite après 6 ans, donc je veux pas rater ça.
Les enseignants, eux, se disent rassurés de leur encadrement et lancent un message aux finalistes.
En ce qui concerne la dissertation française, j'insiste sur la bonne compréhension du sujet. Chers finalistes, croyez en vos capacités, travaillez avec sérieux et abordez les épreuves avec calme et détermination.
Du côté de parents, l'heure est aussi à encouragement au rappel des efforts consentis tout au long du parcours scolaire.
Courage, les finalistes, mais je vous demande en tant que parents de pouvoir vous rappeler du sacrifice que les parents ont fait pour vous aider à arriver jusque-là.
Les finalistes d'édition 2026 sont appelés à faire preuve de rigueur et de détermination pour franchir cette étape décisive.
Autre chose à présent, des informations en provenance de la ville de Gbadolité font état de la présence significative des éleveurs nomades en Bororo dans les territoires de Businga, c'est à 140 km du chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. La nouvelle est confirmée par le député provincial Jean Yayakouba. Selon cet élu de Businga, la présence de ces éleveurs dans les 3 groupements de ce territoire constitue une source d'insécurité pour les populations paysannes. Il affirme que ces Bororo reconnus comme peuple nomade sont munis des cartes d'identité pour réfugiés délivrées par le ministère de l'intérieur de la RDC. Le député provincial Jean Yaya s'est confié à Askenzik Batero.
Dans le groupement Zakunda, c'est le chef de groupement qui les a amenés au groupement Bongoa. À son tour, le chef de groupement Bongoa les a conduits à 2 km dans la forêt du groupement Wuma. C'est ça qui a insécurisé la population. Le gouverneur de province Jean Bosco Kotongo n'a pas apprécié cet ajustement, raison pour laquelle il a suspendu de leur fonction le chef de ces 3 groupements. Cette affaire est très complexe. C'est depuis longtemps que le gouvernement provincial cherche à chasser Mbororo. Mais il y a toujours des blocages, car c'est la CNR qui, en travaillant directement avec le ministère de l'Intérieur, a semé des isanés dans la province. Ils ont délivré à ces éleveurs étrangers des cartes de réfugiés. Or, ces Mbororo ne sont pas des réfugiés. Au juste, nous ne comprenons rien. Ces Mbororo sèment la désolation. Les vaches détruisent le champ de paysans.
Ce parlementaire sollicite l'implication du gouvernement central pour mettre fin à l'envahissement des Mbororo et précise que ces éleveurs sont partis du territoire de Yakoma pour arriver dans celui de Businga en passant par celui de Mobaï Mbongo.
Actualité internationale.
La Tanzanie a fermé un camp accueillant des milliers de réfugiés burundais et a rapatrié la quasi-totalité d'entre eux, à l'exception d'une poignée d'individus. C'est ce qu'ont déclaré vendredi des militants des droits de l'homme et des Nations Unies. Ces derniers mois, les réfugiés burundais se sont plaints d'avoir été expulsés de force du camp de Nduta, dans le nord-ouest de la Tanzanie. Cela à la suite d'un accord conclu entre le gouvernement du Dar es Salaam et de Bujumbura, visant à rapatrier environ 100 000 d'entre eux d'ici juin. Les quelques 3 000 réfugiés qui restaient dans le camp de Nduta ont été embarqués de force dans les véhicules pour être renvoyés au Burundi jeudi. C'est ce qu'a déclaré la coalition pour le droit de l'homme vivre dans les camps de réfugiés. Information relayée par africanews.fr.
L'invité.
Célébration hier 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse dans la province du Congo central. Les professionnels du secteur parlent d'un afflux important des moutons noirs dans la profession. Quelles sont les dispositions prises à ce jour pour décourager cela? Pour en parler, nous recevons Dieudonné Mwakadimbi, président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo au Congo central. Il répond aux questions d'Élise Kavira.
Monsieur Mwakadimbi, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous venons de célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Vous vous êtes quelquefois exprimé à travers les médias au sujet de la présence des moutons noirs dans la presse du Congo central. Qu'en est-il aujourd'hui?
Pour ce qui concerne la presse au Congo central, moi je pense qu'il n'y a presque pas de problème à déplorer, mais est-il que ce n'est pas seulement dans la ville de Matadio, dans la province du Congo central où il y a des moutons noirs, c'est un problème général, donc à travers toutes les provinces.
Justement, quelles sont les dispositions prises pour décourager cet afflux des moutons noirs dans la profession?
Ce que nous faisons maintenant, c'est sur base d'une décision de l'INPC fixant les conditions d'éligibilité à la nouvelle carte de presse. C'est ce que nous sommes en train de divulguer. Nous étions d'abord à Kisantu, Banzangu, Kimpese. Maintenant, il nous reste la série de Boma, Mwanda et Bafleur. Donc, nous sommes en train de vulgariser la décision de l'INPC fixant les modalités d'éligibilité à la nouvelle carte de presse. Puisque qu'est-ce qu'on a constaté? Par le passé, tout le monde s'est présenté comme journaliste et tout le monde, même les chauffeurs, les éditeurs, les journaux, tout ça ici de suite, étaient détenteurs de la carte de presse. Ainsi que cette fois-ci, nous avions essayé de mettre des garde-fous. Pour être éligible à cette carte, vous devez avoir le niveau universitaire. Et puis, il y a certaines conditions aussi, tout ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait le journalisme dans les institutions d'enseignement supérieur reconnues par l'État congolais. Ceux qui ont aussi d'autres diplômes qui n'est pas de la filière du journalisme, ceux-là aussi ont quand même droit à cette carte. Même s'ils n'ont pas, mais là, on va jouer maintenant sur l'ancienneté, donc les années qu'ils prestent au niveau de la presse, bien sûr. Mais alors, pour ce qui concerne les communicateurs, puisque la plupart et maintenant au niveau du gouvernement, dans des institutions politiques comme des communicateurs. Ceux-là, les restes journalistes, bien sûr, mais ne sont pas éligibles à la nouvelle carte de presse jusqu'à ce qu'ils vont quitter les cabinets politiques là où ils ont été affectés. Mais quand ils vont quitter, ils peuvent revenir à l'INPC. Nous allons les recevoir sans problème.
À ce jour, combien de journalistes sont répertoriés dans toute la province du Congo central?
Bon, moi je pense que c'est un peu difficile, puisqu'il y a des chaînes là qui naissent au jour le jour. Ils ne signalent ni au CESAC ni à l'INPC. Maintenant, il y a des gens qui travaillent là-bas comme étant journalistes. Alors c'est ainsi que pour le moment, hein, à l'instant, il nous est difficile. Peut-être quand nous allons effectuer la ronde, puisque ce que nous faisons, la vulgarisation de la décision là, de l'INPC, avec ça, peut-être on saura aussi identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Peut-être ce n'est qu'après qu'on pourrait bien définir le nombre de journalistes que nous avons au niveau de la province.
Peut-on dire que les journalistes de cette province jouissent leur liberté d'expression?
En tout cas, je puis dire oui. Les journalistes sont libres de s'exprimer puisque jusque-là, en dehors du cas d'emprisonnement que nous avions connu, je peux dire, il y avait deux hommes plus une fille là qui sont entrés dans la vie privée d'une autorité de la place, quoi. Aujourd'hui, en étant communicateur du gouverneur, donc au niveau de l'INPC, nous ne les reconnaissons pas.
Avez-vous un message à adresser aux professionnels de la presse du Congo central?
Bon, le message c'est quoi encore, je peux dire? Le journalisme s'exerce en respectant certaines normes. D'où j'invite tous les journalistes à se référer seulement au code d'éthique et de déontologie du journaliste qui constitue notre Bible.
Monsieur Dieudonné Mwakadimbi, Radio Kapi vous remercie.
Merci, merci beaucoup.
Dieudonné Emoi Kadimbi, président provincial de l'UNPC Congo Central. Voilà qui met fin à ce journal que Richard Junior Kamunga a préparé avec André Mungo à la mise en onde. Merci de votre attention. Excellente semaine.